Des images de la Sicile. 27 survivants du navire qui a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche ont touché terre à Catane ce soir. Ils ont laissé la mort au large. Une poignée de survivants sur les 700, peut-être même 900 migrants qui tentaient la traversée depuis l'Afrique dans l'espoir d'une vie meilleure.
Ça peut pas faire de mal.
On l'appelle le cimetière des inconnus. Un cimetière proche de Tripoli en Libye, où de nombreuses tombes ne portent aucun nom, juste une date, celle de la découverte du corps. Mais Ahmad Ben Salem, lui, en est sûr. C'est son frère Kabil qui repose sous cette plaque de marbre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Il est parti le troisième jour de la fête du sacrifice en septembre. Il n'était pas seul. Je pense qu'une seule personne a survécu. Il était avec 127 autres personnes.
Kabil est mort à 25 ans, noyé en Méditerranée, comme tant d'autres migrants qui embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe.
Étranges étrangers, Kabil de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays lointains, cobayes des colonies, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumians de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, polacs du Marais du temps des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés des jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et les bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous mourrez. Ce regard plein de compassion est celui d'un grand poète français, Jacques Prévert. Publié en 1951, ce texte, extrait du recueil « Grand bal du printemps », rend hommage aux immigrés venus combattre et reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. S'il témoigne des débuts de la décolonisation, ce poème peut aussi s'entendre comme un chant universel sur les immigrants de toutes les époques qui partagent une même épreuve, l'exil. Politique ou économique, l'immigration est surtout un acte de survie, le dernier espoir pour des populations menacées par la famine et les guerres fratricides. Poussés par la violence et la pauvreté, les migrants d'aujourd'hui ignorent tout de l'autre misère qui les attend de l'autre côté de la Méditerranée. Ce soir, notre émission évoque la condition tragique des réfugiés fuyant l'Afrique et le Moyen-Orient à travers la voix d'écrivains contemporains qui se font les témoins d'une actualité brûlante. Laurent Godet, Marie Ndiaye, Mathias Sénard. Mais avant de leur donner la parole, commençons par l'évocation d'une figure mythique du migrant.
Alcinous, roi de fées, assis, j'ai hâte de parler un instant. Tout à coup a surgi mon passé, je me rappelle mon nom, les miens, ma patrie et ma noble origine.
C'est sans doute le personnage le plus célèbre de l'histoire méditerranéenne, un voyageur légendaire qui a parcouru les mers pendant 20 ans.
Je m'appelle Ulysse, fils de Laër, roi d'Ithaque et vainqueur de Troie. C'est du côté où naît l'aurore aux doigts de rose qu'est mon royaume. Et c'est là que m'attendent mon fils, ma femme.
Ouvrons l'Odyssée d'Homère, qui relate le retour du héros de la guerre de Troie. Retenu par la déesse Calypso pendant 7 ans, Ulysse est enfin autorisé par les dieux à reprendre la mer pour rejoindre son île natale, Ithaque. Mais une tempête l'éloigne de sa trajectoire et c'est le début d'une nouvelle errance. Datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce récit mythologique décrit des routes maritimes qui sont toujours celles aujourd'hui qu'empruntent les migrants. L'île de Calypso serait localisée dans l'archipel de Malte et la Phéacie serait l'actuel Corfou à la frontière entre la Grèce et l'Albanie. Voici un extrait du chant 5, intitulé « Le radeau d'Ulysse », où le départ s'annonce comme un impossible retour. Assis près de la barre, en maître, il gouvernait. Sans qu'un somme jamais tombât sur ses paupières, son œil fixait les Pléiades et la constellation du Bouvier qui se couche si tard, et celle de l'ours qu'on appelle aussi le chariot, la seule des étoiles qui jamais ne se plonge au bain de l'océan. La vie de Calypso, cette toute divine, était de naviguer sur les routes du large en gardant toujours l'ours à gauche de la main. 17 jours, il vogua sur les routes du large. Le 18e, enfin, les monts de Phéacie et leurs bois apparurent. La terre était tout près, bombant son bouclier sur la brume des mers. Or, revenant d'Éthiopie, Poséidon découvrit le large. Ulysse apparaissait voguant sur son radeau. La colère du dieu redoubla dans son cœur envers l'assassin de son fils. Et secouant la tête, il se dit à lui-même. Ah, misère! Voilà que les autres dieux, pour Ulysse, ont changé leur décret. Il est prêt de toucher aux rives phéaciennes, mais je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur. À peine avait-il dit que, prenant son trident et rassemblant les nues, il démontait la mer et des vents de tout air déchaînant les rafales. Sous la brume, il noyait le rivage et les flots. La nuit tombait du ciel. Ensemble s'abattaient les vents, l'Euros et le Nostos et le Zéphyr hurlant et le Boré qui naît dans l'azur et qui fait rouler la grande houle. Ulysse alors, sentant ses genoux et son cœur se dérober, gémit en son âme vaillante. Malheureux que je suis, quel est ce dernier coup? J'ai peur que Calypso ne m'ait dit que trop vrai. Le comble de tourments que la mer, disait-elle, me réservait avant d'atteindre la patrie, le voici qui m'advient. Ah, de quelle nuée Zeus tend les champs du ciel! Sur ma tête, voici la mort bien assurée, que j'aurais dû mourir près du corps d'Achille, j'eusse alors obtenu ma tombe, même en pays troyen. Ah, la mort pitoyable où me prend le destin! À peine avait-il dit qu'en volute, un grand flot le frappa. Choc terrible, le radeau capota. Ulysse au loin tomba hors du plancher. La barre échappa de ses mains et la fureur des vents, confondue en bourrasque, cassant le mât en deux, emporta voile et vergue au loin en pleine mer. Lui-même, il demeura longtemps enseveli, sans pouvoir remonter sous l'assaut du grand flot et le poids de ses habits que lui avait donné Calypso la divine. Enfin, il émergea de la vague. Sa bouche rejetait l'âcre écume dont ruisselait sa tête. Mais tout meurtri, il ne pensa qu'à son radeau. D'un élan dans les flots, il alla le reprendre, puis s'assit au milieu pour éviter la mort et laissa les grands flots l'entraîner çà et là au gré de leur courant. Le boré de l'automne emporte dans la plaine les chardons emmêlés en un dense paquet. C'est ainsi que les vents poussaient à l'aventure le radeau sur l'abîme. Revenons à notre époque actuelle. 3000 ans après Ulysse, de nombreux candidats à l'exil succombent à l'appel des sirènes de l'Europe. Voisine de la Grèce, une autre région est devenue tristement célèbre au cours des 10 dernières années, les Pouilles, au sud de l'Italie. Embarqués sur des canaux de fortune ou entassés sur des navires marchands, des milliers de migrants échouent sur les plages ou tombent entre les mains de la police maritime. Dans un roman magnifique, l'écrivain Laurent Godet retrace l'histoire d'un garde-côte basé en Sicile. Un jour, parmi les clandestins qu'il sauve en mer, une femme lui raconte sa terrible épreuve. Voici un extrait de ce récit poignant, Eldorado, publié en 2006 chez Actes Sud. Ils levèrent l'ancre au milieu de la nuit. La mer était calme. Les hommes, en sentant la carcasse du navire s'ébranler, reprirent courage. Ils partaient enfin. Le compte à rebours était enclenché. Dans quelques heures, 24 ou 48 au pire, ils fouleraient le sol d'Europe. La vie allait enfin commencer. On rigolait à bord. Certains chantèrent les chants de leur pays. Elle ne se souvenait plus avec précision de cette première nuit sur le navire, ni de la journée qui suivit. Il faisait chaud, ils étaient trop serrés, elle avait faim, son bébé pleurait. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Elle se serait sentie capable de tenir des jours entiers ainsi. Le nouveau continent était au bout. et la promesse qu'elle avait faite à son enfant de l'élever là-bas était à portée de main. Elle aurait tenu, vaille que vaille, pourvu qu'elle aurait pu se raccrocher à l'idée qu'il se rapprochait, qu'il ne cessait, minute après minute, de s'approcher. Mais il eut ses cris poussés à l'aube du deuxième jour, ces cris qui renversèrent tout. Les cris avaient été poussés par deux jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité de la nuit pour abandonner le navire, à l'aide de l'unique canot de sauvetage. La panique s'empara très vite du bateau. Personne ne savait piloter pareil navire. Personne ne savait non plus où l'on se trouvait. À quelle distance, de quelle côte? Ils se rendirent compte avec désespoir qu'il n'y avait pas de réserve d'eau ni de nourriture, que la radio ne marchait pas. Ils étaient pris au piège, encerclés par l'immensité de la mer, dérivant avec la lenteur de l'agonie. Les visages d'un coup se fermèrent. On savait que si l'errance se prolongeait, la mort serait monstrueuse. Elle les assoifferait, elle les éteindrait, elle les rendrait fous à se ruer les uns contre les autres. Le premier mort fut un Irakien d'une vingtaine d'années. D'abord, personne ne sut que faire, puis les hommes décidèrent qu'il fallait jeter les morts à la mer, pour faire de la place et éviter tout risque d'épidémie. Bientôt, ces corps plongés à l'eau furent de plus en plus nombreux. Chacun se demandait s'il ne serait pas le prochain. Elle serrait de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne rien faire d'autre que dormir. Une femme à côté d'elle lui tendit une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Elle mouilla les lèvres de son nourrisson, mais les gouttes coulèrent le long de son menton. Elle l'appela, le secoua, lui tapota les joues. Il finit par râler indistinctement, un petit râle d'enfant. Elle n'entendait plus que cela. Au-dessus du brouhaha des hommes et du bruissement des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler les lèvres. Elle supplia, elle gémit. Les heures passèrent, toutes identiques, sans bateau à l'horizon. Sans retour providentiel de l'équipage, rien. La révolution lente et répétée du soleil les torturait et la soif les faisait halluciner. Elle était incapable de dire quand il était mort. Elle était restée dans la même position pendant des heures, lui chantant des comptines, l'appelant par son nom, lui jurant qu'il s'en sortirait. Puis les gens qui l'entouraient lui avaient tapé sur l'épaule. Elle avait vu dans leur regard ce qu'ils pensaient. Elle avait hurlé de la laisser tranquille, de ne pas l'approcher, qu'elle allait le réveiller. Plus tard, ils avaient essayé à nouveau, répétant qu'il ne fallait pas garder de mort sur le bateau. De quoi parlait-il? Ce n'était pas un mort qu'elle tenait entre ses bras, c'était son enfant. Elle ne comprenait pas. Et puis deux hommes étaient venus et l'avaient forcé. Ils l'avaient obligé à desserrer son emprise. Elle se défendit, elle cracha et mordit, mais ils étaient plus forts qu'elle. Ils réussirent à lui prendre l'enfant et sans un mot, le jetèrent par-dessus bord. Elle se souvenait encore du bruit horrible de ce corps aimé, embrassé, touchant l'eau. Son esprit assommé ne pensa plus à rien. La fatigue l'envahit. À partir de cet instant, elle renonça. Elle se laissa glisser dans un coin, s'agrippa à la rambarde et ne bougea plus. Elle n'était plus consciente de rien. Elle dériva avec le navire. Elle mourait, comme tant d'autres autour d'elle, et leur souffle fatigué s'unissait dans un grand râle continu. Ils dérivèrent jusqu'à la troisième nuit. La frégate italienne les intercepta à quelques kilomètres de la côte des Pouilles. Au départ de Beyrouth, il y avait plus de 500 passagers à bord. Seuls 386 survécurent, dont elle, sans savoir pourquoi. Elle qui n'était ni plus forte, ni plus volontaire que les autres. Elle à qui il aurait semblé juste et naturel de mourir après l'agonie de son enfant. Elle qui ne voulait pas lâcher la rambarde parce que se lever c'était quitter son enfant. Et elle ne le pouvait pas.
T-shirt rouge, pantalon bleu, le corps échoué d'Eylan sur une plage turque renvoie violemment l'Europe à la crise des migrants. Le récit de Gaëlle Aldott.
Eylan, 3 ans, avait quitté la Syrie avec ses parents et son grand frère pour fuir la guerre. La mère a rejeté son corps sans vie sur une plage turque. le bateau a chaviré avant d'atteindre la Grèce. Son père est le seul rescapé de la famille.
Les vagues étaient si hautes que le bateau s'est retourné. J'ai pris ma femme, mes enfants dans mes bras, mais j'ai réalisé qu'ils étaient morts.
Un enfant qui est retrouvé noyé sur une plage, c'est une tragédie, mais c'est aussi une interpellation à l'égard de la conscience européenne.
Quittons l'Italie pour d'autres rivages de la Méditerranée. Nous voici aux portes de cette Europe tant convoitée, le détroit de Gibraltar. Un autre écrivain contemporain récompensé par le prix Goncourt en 2015 nous raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui décide d'émigrer en Espagne au lendemain des révolutions arabes. Ex-étudiant, il embarque comme homme à tout faire sur un cargo, l'Ibn Battuta. Mais un jour, le bateau est bloqué au port d'Algésiras par les autorités. Le garçon doit trouver du travail pour continuer son voyage. Voici un extrait du roman de Mathias Hénard, Rue des voleurs, publié en 2012 chez Actes Sud. J'avais peur, peur de retomber dans l'errance, la pauvreté. J'étais fatigué. Pas de révolution, pas de livre, pas d'avenir. Je ne pouvais pas rentrer à Tanger parce que je savais qu'il me serait impossible d'en repartir. Pas vers le nord, du moins, ou alors clandestinement. Sur l'Ibn Battuta, j'avais entendu beaucoup d'histoires. De terribles histoires d'exil, de noyés dans le détroit ou sur la côte atlantique, entre le Maroc et les Canaries. Les Africains préféraient les Canaries parce que l'archipel était plus difficile à surveiller. Comme tous ces nègres et ces bougnoules traînant dans les rues sans rien à faire n'étaient pas bons pour le tourisme, le gouvernement canarien les envoyait se faire pendre ailleurs par avion, sur le continent, à ses frais. Et les subsahariens, les Maures, les Nigérians et les Ougandais se retrouvaient à Madrid ou à Barcelone à tenter leur chance dans un pays où le chômage était le plus élevé d'Europe. Les filles devenaient putes, les hommes finissaient dans les campements clandestins et misérables à la campagne, en Aragon ou dans la Manche, planqués entre deux arbres à vivre au milieu des ordures, des bidons crevés, du froid, en attendant qu'un agriculteur leur donne un peu de boulot pénible en échange de son pain rassis et de ses épluchures de patates pour leur soupe. Très peu pour moi, merci. On trouve toujours plus misérable que soi. Par rapport à ces galériens, j'étais un nanti. J'avais un peu d'éducation, un peu d'argent et un pays où, dans le pire des cas, on pouvait vivoter. J'étais un enfant de la ville, j'avais lu des livres, je parlais les langues étrangères, je savais me servir d'un ordinateur, je finirais bien par trouver quelque chose. Et effectivement, j'ai trouvé très vite un travail, à côté d'Algésiras, grâce à Saadi, bien sûr. Je n'aurais jamais eu l'idée de prospecter dans cette branche, à supposer qu'une telle branche existe vraiment. Il avait parlé sur le port à un entrepreneur de la région qui avait besoin d'un Marocain pour un petit boulot. Et c'est comme ça que je suis entré au service de Marcelo Cruz, pompe funèbre. Il avait besoin d'un musulman pour que les dépouilles soient traitées dans le respect de la religion. Je serai donc son musulman à tout faire. Payé au noir, logé sur place. Un jour, M. Cruz est parti à l'aube avec le corbillard. Il est revenu avec une cargaison de morts, 17. Une patera avait chaviré au large de Tarifa. Et le courant avait saupoudré les plages de cadavres. 17. C'est un petit nombre gigantesque. On ne se rend pas compte en entendant à la radio ou à la télévision le nombre de cadavres laissés par telle ou telle catastrophe, ce que représentent 17 corps. On se dit, ah, 17, ce n'est pas beaucoup, parlez-moi de 1000, de 2000, de 3000 Maccabées, mais 17, ce n'est rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est une quantité énorme de vie disparue, de viande crevée. C'est encombrant, dans la mémoire, comme dans la chambre froide. Ce sont 17 visages et plus d'une tonne de chair et d'eau, des dizaines de milliers d'heures d'existence, de milliards de souvenirs disparus, des centaines de personnes touchées par le deuil entre Tanger et Mombasa. J'ai enveloppé un par un ces types dans leur linceul, en pleurant. La plupart étaient jeunes, de mon âge, voire moins. Certains avaient les membres brisés ou des ecchymoses sur le visage. La grande majorité paraissait arabe. Parmi ces corps se trouvait celui d'une fille. Elle s'était tatouée au henné un numéro de téléphone sur le bras, un numéro marocain. Elle avait les cheveux longs, très noirs, le visage gris. J'étais gêné. Je ne voulais pas entrevoir ses seins, son sexe. Normalement, je n'aurais pas dû la mettre en bière moi-même. C'était une femme qui aurait dû s'en occuper. J'avais peur de mon propre regard sur ce corps féminin. J'imaginais Meriem, mon premier amour. Je l'imaginais morte. C'était elle que je mettais en bière. Elle que j'enterrais enfin, seule dans la nuit de mes cauchemars. J'ai imaginé la police appeler à ce numéro de téléphone tatoué, une mère ou un frère décroché, une voix presque mécanique les informer en répétant très fort pour être compris de la fin de leur sœur, de leur fille. Tout comme le téléphone avait dû sonner chez mon oncle après ma fuite, comme il sonnera un jour aussi pour nous, les uns après les autres, et tendrement, fraternellement. J'ai disposé cet inconnu dans son sarcophage de métal, avec honte et précaution. Peut-être n'imagine-t-on vraiment la mort qu'en voyant son propre cadavre dans celui des autres, jeune comme moi, marocain comme moi, candidat à l'exil comme moi. Le soir, j'écrivais des poèmes pour tous ces disparus, des poèmes secrets que je glissais ensuite dans leur cercueil, un petit mot qui disparaîtrait avec eux, un hommage, une rita. Je leur donnais des noms, j'essayais de les imaginer vivants, de deviner leur vie, leurs espoirs, leurs derniers instants. Parfois, je les voyais en rêve. Je n'ai jamais oublié leur visage.
Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Y'a des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. J'en ai.
naufrages se multiplient entre Gibraltar et l'île tristement célèbre de Lampedusa, ils ne sont que la partie visible d'un vaste trafic humain qui commence plus à l'est.
Vous êtes 10, c'est ça?
On part ce soir?
Tu as l'argent?
Oui.
Donne.
Tu l'auras au départ. Je vais voir le capitaine.
C'est Kabandoy, le capitaine. C'est lui qui va nous conduire.
On part ce soir?
Ce soir, c'est trop dangereux. La météo n'est pas bonne. Peut-être demain.
Il est jeune pour être capitaine.
Il est né dans une pirogue. Avec lui, tu pars tranquille à New York.
Découvrons à présent le visage d'un passeur, de ceux qui menaient à prix fort le convoyage de ces hommes marchandises. Nous sommes en Turquie, dans la région du Kurdistan. Un adolescent élevé par son père au milieu de clandestins est chargé de nettoyer la citerne où les réfugiés sont parqués en attendant leur départ. Indifférent à leur sort, il devient peu à peu leur bourreau. Voici un extrait d'un roman choc récompensé par le prix Médicis du livre étranger en 2015. Il s'intitule « Encore ». Il est l'œuvre d'un jeune auteur turc, Hakan Günday, figure de la nouvelle génération des écrivains d'Istanbul. Il sera présent en France à l'occasion du prochain festival Atlantide qui se déroulera du 10 au 13 mars à Nantes. Extrait de la traduction de Jean Desca aux éditions Galahad. Ce matin-là, j'étais chargé de brancher la ventilation, mais j'avais d'abord négligé puis complètement oublié de le faire. Mon père avait prévu de faire débarquer Kouma, le jeune Afghan, le soir même avant d'aller prendre livraison d'autres marchandises au bord de la rivière. Me faisant confiance, il n'avait pas contrôlé la caisse du camion avant de partir. C'est seulement en l'ouvrant à l'arrivée dans la petite baie d'où partait le bateau que nous trouvâmes le cadavre de Kouma. Mon père décida de me donner une leçon. Ainsi, pendant tout le voyage, au lieu de regarder la route, je restais pétrifié dans la caisse à m'efforcer de ne pas regarder le cadavre. Cela dura plusieurs heures, au cours desquelles je fis tout mon possible pour rester à distance du corps inerte qui roulait à chaque virage. À notre arrivée au bord de la rivière, mon père eut au fait d'enterrer Kouma. Cette soirée était aussi sacrée pour les clandestins qu'elle était maudite pour moi. Ils se rapprochaient un peu plus de leur but. Une fois qu'ils étaient montés dans le camion, nous faisions les comptes. Ensuite, nous parcourions en sens inverse les 300 km et arrivions chez nous. On garait le camion dans le hangar et on ouvrait la porte de la caisse. On soulevait le couvercle qui se trouvait dans un coin du hangar en disant « Allez !» Ils ne comprenaient pas ce mot, mais nous leur indiquions par geste ce qu'ils devaient faire et ils disparaissaient les uns après les autres dans l'orifice où un seul homme à la fois pouvait se faufiler. Mon père avait aménagé ce réservoir 2 ans plus tôt. Le temps qui s'écoulait entre les diverses étapes du transport était irrégulier. Et comme il se prolongeait parfois, mon père avait jugé que le hangar n'offrait pas une sécurité suffisante. Il avait fait venir des artisans du village de Barnak, situé à 200 km, et leur avait dit « j'ai besoin d'une citerne, 12 mètres de long, 6 de large et 2 de haut. » Comme c'était lui qui payait, il n'avait pas insisté. C'est ainsi que vit le jour ce puits infernal qui pouvait contenir 200 personnes à condition qu'elles rentrent le ventre et se serrent les unes contre les autres. Il était clos par un couvercle de fonte que j'actionnais en jouant les égouttiers. Les cartes de géographie qui apparaissaient sur les parois de béton humide et les flaques d'eau sur le sol changeaient constamment. L'intérieur de ce cercueil était toujours chaud. Une ampoule électrique qui grillait au moins 3 fois par semaine et qu'il fallait constamment changer éclairait cette cellule et y jetait les ombres réticulées des toiles d'araignée. Pendant des années, nous avons entreposé des êtres humains dans ce réduit. Les clandestins qui venaient de parcourir plusieurs milliers de kilomètres ne prêtaient aucune attention au décor. Ils s'asseyaient sur le sol humide, la tête entre les mains, en position d'attente. M'étant rendu compte qu'à rester assis sur le sol humide, ils ne tardaient pas à avoir la diarrhée, et que je passais beaucoup de temps à répandre des copeaux, je leur distribuais du papier journal, puis je posais devant eux des seaux dont l'usage était évident. Un pour une famille, un pour ceux qui avaient un compagnon. À ceux qui étaient seuls, je demandais « Avec qui veux-tu chier ?» Bien entendu, ils ne comprenaient pas et je n'avais nulle envie de donner des explications. Ensuite, selon les circonstances, ils restaient là une demi-journée ou une quinzaine avant de repartir. C'était Dordor et Armin qui décidaient du délai. Jouant à cache-cache avec les gardes-côtes, ils décidaient du départ du bateau et téléphonaient à mon père pour indiquer en langage chiffré le lieu et l'heure du rendez-vous. Un beau soir, le couvercle de la citerne s'ouvrait, les clandestins montaient dans la caisse du camion et après un voyage de 50 km pour les uns, 200 pour les autres, par un des quais de bois rongés par la mer Égée, ils montaient à bord des bateaux et se perdaient dans la nuit. Il ne me fallut que 5 ans pour devenir un être terrifiant. Pourtant, j'étais encore un enfant. J'avais 14 ans, et pour moi, la souffrance des autres n'était qu'un jeu. Ce que je vivais me semblait irréel. Cela me rendait encore plus terrifiant. Je travaillais dans les services. J'étais chargé de l'entretien d'un égout par lequel transitaient des êtres humains. Il m'était impossible de me mettre à la place de ces créatures mi-mères de mi-hommes. J'avais depuis longtemps dépensé mon potentiel d'empathie à essayer de comprendre le comportement de mon père, d'Aruz, de Dordor et d'Armin. Je n'avais plus que mes deux yeux braqués comme deux revolvers sur ce qui se passait autour de moi. Le nom des clandestins, leur vie, leur sang qui coulait dans leurs veines ne m'intéressait absolument pas. Je savais seulement me mettre en colère. Leur moindre réaction, leur plus pâle sourire déchirait mes pupilles comme une griffe empoisonnée. Et plus encore les rêves qu'ils forgeaient en secret. Je percevais distinctement cet espoir confus d'être heureux un jour, ces aspirations répugnantes auxquelles j'apportais malgré moi ma contribution. Un jour, je demandai à mon père, « Est-ce que nous aussi, nous pourrons partir ?» Je suppliais, « Papa, je t'en prie, partons avec eux. » Nous aurions embarqué sur les bateaux de Dordor et Armin et débarqué sur d'autres rivages pour y renaître. Il me regarda. Notre boulot, c'est d'expédier ceux qui arrivent, pas de partir. C'était comme s'il avait dit, notre boulot, c'est de tuer, pas de mourir.
On leur demande en moyenne 1 200 $. Il y a d'autres bateaux, plus gros, c'est 2 500 $. Et il y en a même sur lesquels une place se monnaie 5 000 $. On peut mettre jusqu'à 40 personnes sur certains zodiacs. Moi, je gagne à peu près 1 000 $ pour chaque bateau. Le patron turc se fait entre 40 et 50 000 dollars par bateau. Le conducteur est un réfugié syrien pauvre. On lui apprend à manœuvrer et c'est lui qui conduit les réfugiés. Vu qu'il est pauvre, il nous rend ce service et en échange, c'est gratuit pour lui.
Si le but des migrants est d'embarquer en mer à leurs risques et périls, les plus démunis sont condamnés à une longue errance à travers le désert. Parcourant des milliers de kilomètres à pied ou chargés comme du bétail dans des camions, les migrants franchissent parfois plusieurs frontières. À chaque étape de leur voyage, ils risquent d'être séquestrés, raquettés, violés. Découvrons à présent l'exil forcé d'une jeune Africaine chassée par sa famille, condamnée à la prostitution. Il s'agit de Kadi, l'une des héroïnes du magnifique roman de Marie Ndiaye, « Trois femmes puissantes », saluée par le prix Goncourt en 2009. Née en région parisienne d'un père sénégalais, Marie Ndiaye livre un récit bouleversant sur la condition des migrants livrés à la sauvagerie. En chemin, Kadi rencontre un jeune homme, Lamine, qui la prend un temps sous sa protection. Elle devait se rappeler sans amertume, avec une sèche tristesse, les attentions que Lamine avait eues à son égard. Tout cela, elle se le rappelait sans jamais penser néanmoins qu'il avait cherché à la tromper. Elle n'avait pas perdu grand-chose, penserait-elle, avec cette assurance discrète et inébranlable. Je suis moi, Kadi Demba, alors que les muscles des cuisses endolories et le vagin brûlant, elle se relèverait maintes fois par jour de l'espèce de matelas, morceau de mousse grisâtre et puant, qui serait pour de si longs mois son lieu de travail. Au vrai, elle ne regrettait rien, immergée tout entière dans la réalité d'un présent atroce, mais qu'elle pouvait se représenter avec clarté. Elle n'oublierait jamais la valeur de l'être humain qu'elle était, Kadi Demba, honnête et vaillante. Quant à l'enchaînement des situations qui les avaient amenées là, elle et Lamine, elle s'efforçait calmement, froidement, de le comprendre. Après une journée et une nuit de route, le camion s'était arrêté à une frontière. Tous les voyageurs étaient descendus, s'étaient rangés en file et avaient présenté leurs passeports à des militaires qui criaient un mot, un seul, que Kadi avait compris bien qu'il ne fût pas de sa langue. Argent. À ceux qui levaient leurs mains, paumes en l'air pour signifier qu'ils n'avaient rien ou qu'ils sortaient trop peu de leur poche, ils assénaient de tels coups de matraque que certains tombaient à terre où ils demeuraient, inconscients, parfois rossés encore par un soldat étourdi de fureur. Kadi s'était mise à trembler de toute sa chair. Lamine, debout près d'elle, lui avait pressé la main. Elle pouvait voir la mâchoire du garçon tressauter comme si ses dents claquaient derrière ses lèvres serrées. Il avait tendu son passeport au militaire et quelques billets roulés en montrant Kadi, puis lui-même. L'homme avait pris les billets du bout des doigts avec mépris. Il les avait jetés à terre. Il avait lancé un ordre et un soldat avait frappé la mine dans le ventre. Plié en deux, le garçon était tombé à genoux, sans un mot, sans un gémissement. Le soldat avait sorti un couteau, soulevé l'un des pieds de la mine et d'un coup de lame avait fendu la semelle du garçon. Il avait passé un doigt dans la fente, puis il avait fait de même avec l'autre chaussure. Et quand la mine, presque aussitôt, comme si le danger était plus grand de rester prostré que de faire face à son ennemi, s'était remis debout, chancelant, ses genoux osseux cognant l'un contre l'autre, Caddy avait pu voir deux filets de sang couler dessous ses chaussures, aussitôt bu par la poussière. Celui des militaires qui commandait aux autres s'était alors approché d'elle. Caddy avait tendu le passeport que la mine avait fait faire pour elle. L'esprit limpide, quoiqu'elle ne pût empêcher son corps entier de grelotter, elle avait glissé la main dans la ceinture de son pagne, avait tiré la maigre liasse de billets qui, serrée par l'élastique de sa culotte, détrempée de sueur, ressemblait à un bout de chiffon verdâtre, l'avait posée délicatement, respectueusement, dans la main de l'homme, tout en collant son épaule à celle de la mine pour bien montrer qu'ils étaient ensemble. Cela faisait maintenant plusieurs semaines, elle ne savait au juste combien, qu'ils étaient échoués dans cette ville du désert, non pas celle où le soldat avait entaillé la plante des pieds de la mine, mais une autre, plus éloignée de leur point de départ, où les avait conduits le camion une fois passé ce premier contrôle. Ceux des voyageurs qui avaient encore de l'argent avaient pu continuer la route en payant une nouvelle fois le chauffeur. Mais elle, Caddy Demba, la mine et quelques autres, avaient dû s'arrêter là dans cette ville envahie par le sable.
Elle suit donc le parcours
Marianne Diaé
que suit dans la vraie vie, dans la plus stricte réalité les migrants aujourd'hui. Et elle échoue comme des centaines, des milliers échouent à joindre l'Europe et elle échoue tragiquement. Caddy ne doute jamais, elle, de sa valeur profonde en tant que qu'être humain, et de ce point de vue-là, elle est inaccessible au sentiment d'humiliation.
Restons en compagnie de Caddy Demba. Comme de nombreux désespérés, une ultime épreuve l'attend, l'assaut des frontières barbelées avec des échelles de fortune. Un jour, la mine a disparu en lui volant tout son argent. Malade et affamée, Caddy atteint enfin un campement dans une forêt à quelques kilomètres d'une frontière avec l'Europe. À bout de force, elle se met à imiter les autres réfugiés, fabriquer une échelle avec des branchages et des bouts de ficelle en attendant l'heure de la délivrance. Ils s'ébranlèrent à la nuit. Des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes, parmi lesquels Caddy se sentait particulièrement ténue, presque impalpable, un souffle. Elle portait comme les autres son échelle et celle-ci, quoique légère, lui paraissait plus lourde qu'elle-même, absurdement comme se font lourdes parfois les choses rêvées. Et cependant elle avançait claudiquante et non moins rapide que ses compagnons, sentant cogner son cœur énorme dans la minuscule cage d'eau de sa poitrine fragile, brûlante. Ils marchèrent longtemps, silencieux, à travers la forêt, puis des terrains empierrés où Caddy plusieurs fois tituba et tomba, et elle se releva et reprit sa place dans le groupe, elle qui se sentait n'être qu'un infime déplacement d'air, qu'une subtilité glaciale de l'atmosphère. Elle avait si froid, elle était tout entière si froide. Ils arrivèrent enfin dans une zone déserte, éclairée de lumière blanche, comme un éclat lunaire porté à incandescence. Et Caddy aperçut le grillage dont ils parlaient tous, le grillage séparant l'Afrique de l'Europe. Et des chiens se mirent à gueuler comme ils progressaient toujours, et des claquements rebondirent dans le ciel, et Caddy entendit « Il tire en l'air !» énoncer d'une voix que l'anxiété rendait stridente, inégale. Puis la même voix peut-être lança le cri convenu, une seule interjection, et tout le monde se mit à courir vers l'avant. Elle courait aussi, la bouche ouverte mais incapable d'inspirer, les yeux fixes, la gorge bloquée, et déjà le grillage était là, et elle y appuyait son échelle, et la voilà qui montait barreau après barreau, jusqu'à ce que, le dernier degré atteint, elle agrippa le grillage.
et elle pouvait entendre autour d'elle les balles claquer et des cris de douleur et d'effroi, ne sachant pas si elle criait également ou si c'était les martèlements du sang dans son crâne. Et elle voulait monter encore et se rappelait qu'un garçon lui avait dit qu'il ne fallait jamais, jamais s'arrêter de monter avant d'avoir gagné le haut du grillage. Mais les barbelés arrachaient la peau de ses mains et de ses pieds et elle pouvait maintenant s'entendre hurler et sentir le sang couler sur ses bras, ses épaules, se disant de jamais s'arrêter de monter, jamais, répétant les mots sans plus les comprendre et puis abandonnant, lâchant prise, tombant en arrière avec douceur et pensant alors que le propre de Kadi Demba, moins qu'un souffle, à peine un mouvement de l'air, était certainement de ne pas toucher terre, de flotter éternel, inestimable. Trop volatile pour s'écraser jamais dans la clarté aveuglante et glaciale des projecteurs. C'est moi, Kadi Demba, songea-t-elle encore à l'instant où son crâne heurta le sol et où, les yeux grands ouverts, elle voyait planer lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises. C'est moi, Kadi Demba, songea-t-elle, dans l'éblouissement de cette révélation, sachant qu'elle était cet oiseau et que l'oiseau le savait. Chaque fois qu'on donnait de l'argent à la mine en échange de son travail, que ce fût dans l'arrière-cuisine du restaurant, au bec fin, où il lavait la vaisselle le soir, dans l'entrepôt où il déballait les marchandises d'un supermarché, sur un chantier, dans le métro, partout où il allait pour louer ses bras, chaque fois que les euros passaient de mains étrangères aux siennes, il pensait à la fille. Il l'implorait muettement de lui pardonner, de ne pas le poursuivre d'exécrations ou de songes empoisonnés. Dans la chambre qu'il partageait avec d'autres, il dormait sur son argent et rêvait de la fille. Elle le protégeait ou au contraire le vouait au pire. Et quand à certaines heures ensoleillées, il levait son visage, l'offrait à la chaleur, il n'était pas rare qu'un demi-jour tombât soudain inexplicable. Et alors il parlait à la fille et doucement lui racontait ce qu'il advenait de lui, lui rendait grâce, un oiseau disparaissant au loin.
Cas suivant. Comparé Kayani Bilal. Né le 8 décembre 1992 à Mossoul, Irak, entré illégalement sur le territoire et appréhendé le 15 février alors qu'il tentait d'embarquer clandestinement vers le Royaume-Uni. Conformément aux dispositions relatives aux personnes issues de pays en guerre, vous échappez aux mesures de reconduite à la frontière. Mais il faut que vous sachiez qu'ici, des mesures policières très strictes ont été prises pour inciter les gens comme vous à rentrer dans leur pays d'origine. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté chez vous, mais vous ne pourrez pas rentrer en Angleterre. Ça ne passe plus, c'est fini. Il faut rentrer chez vous. Ça vous évitera de gros problèmes, compris ?
Monsieur le juge, je me permets de vous faire remarquer que ce jeune homme est mineur et qu'à ce titre, il peut bénéficier d'un placement dans un foyer.
Vous savez très bien que ce n'est pas dans un foyer qu'il veut aller mettre. Perdons pas de temps avec ça, voulez-vous ? Cas suivant.
Fight!
voici au bout du voyage. Comme chez Marie Ndiaye, le roman Eldorado de Laurent Godet s'achève sur la même scène d'un assaut avec des échelles. L'action se situe à Ceuta, une enclave espagnole à la pointe du Maroc de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Si certains miraculés parviennent à franchir l'enfer, des millions d'autres sont condamnés. Voici le message plein d'espoir qui clôt pourtant son récit. « Les hommes du camion », se murmura-t-il à lui-même. Il pensait que ce camion qu'il avait renversé transportait probablement des immigrants. Il avait été écrasé par un de ces milliers de camions qui partent à l'assaut de la citadelle. Cela lui plaisait. « Approchez », dit-il doucement. Il ne savait pas si des hommes effectivement l'entendaient ou s'il n'était entouré que de visions, mais il appela. « Approchez !» Sa supplique montait fragilement de son corps fracassé. « Ne perdez pas de temps, leur dit-il. Laissez-moi ici, cela n'a pas d'importance. » Il se sentait traversé de mille sursauts. Il parlait à la terre et au peuple en souffrance. Il parlait pour laisser à la poussière quelques mots en héritage. Il voulait que sa voix coure le long des routes et des sentiers. L'Eldorado était là. Il ne fallait pas tarder. Son corps resterait sur le bord de la route, comme la carcasse d'une vache que le vent caresse jusqu'à l'éparpillement. C'était juste. Que les camions roulent dans la nuit. Il ne fallait pas renoncer au voyage. L'Eldorado. Il avait ce mot sur les lèvres. Il convoqua la foule des visions qui l'assaillaient et il parla avec une volonté qu'il ne s'était plus connue depuis des années. Il leur dit de partir, sans attendre, à l'assaut des frontières, de tenter leur chance avec rage et obstination, que des terres lointaines les attendaient. Oui, c'est cela qu'il murmura à la poussière, que l'Eldorado était là et qu'il n'était pas de mer que l'homme ne puisse traverser. Puis il mourut. Le bruit d'un camion qui démarrait fit trembler l'obscurité, emportant avec lui des hommes qui s'élançaient à la conquête des frontières. Car les immigrants continueront à se presser aux portes de l'Europe, toujours plus pauvres, toujours plus affamés. Les matraques seront toujours plus dures, mais la course des damnés toujours plus rapide. Le camion s'éloigna. Il ne restait plus que la vaste nuit d'Afrique, indifférente aux hommes et à leurs souffrances, soucieuse du seul cri des oiseaux qui fait frissonner les arbres centenaires. Laurent Godet.
On sait très bien que l'Eldorado n'existe pas, et pourtant le mot existe, et pourtant on a besoin parfois de caresser cette notion-là en esprit. Et j'aime bien cette idée qu'on ait besoin de ce petit rêve tout en sachant que c'est une fiction.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Philippe Bredin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Merci à Fanny Leroy pour ses lectures engagées.
Bonne journée et à la semaine prochaine.